Alors, c'est pas vraiment un dossier, c'est plutôt un mini dossier et je tiens à dire tout de suite que ça ne prétend pas du tout, mais du tout à l'exhaustivité. Il y a vraiment énormément de jeux de rôle qui abordent des thèmes dystopiques. Je classerais pas forcément
D'ailleurs,
Polaris dedans, mais
Polaris pourrait-il être un jeu dystopique? Il se déroule sur Terre.
oui. Alors, le truc, c'est que bon, ça dépend un peu de la définition qu'on veut donner
À la
à la
dystopie.
dystopie. Bon, on va partir du principe que c'est le quelque part le contraire de l'utopie. Mais d'abord, avant de venir là, je voudrais te poser une question. Tu n'as rien à cacher.
Non.
Non, tu n'as rien à cacher.
Non,
Donc, ça
je
ne t'embêtera pas si on te met une puce peut-être dans le bras ou alors si on met une caméra dans ta chambre. Pour te protéger.
ah je
Voilà. Eh ben, ça commence avec des gens qui disent qu'ils n'ont rien à cacher et puis ça finit en dystopie. Et la dystopie, c'est avant d'être un monde où l'humanité se bat pour sa survie, comme Polaris,
oui.
c'est un monde où la société a été détournée de sa fonction première, qui est
D'arranger le
d'assurer,
fonctionnement des gens
oui,
entre eux.
voilà, de faire vivre au mieux quelque part tout le monde, et où elle est devenue un objet, elle oppresse en fait, voilà. Donc la dystopie, donc on a dit c'est le contraire de l'utopie. Les utopies c'était avant tout, comment dire, ce sont des objets philosophiques. On va réfléchir à la société parfaite.
Oui.
Et la dystopie, c'est aussi des objets philosophiques, mais là pour réfléchir à ce que pourrait être une société imparfaite, pour peut-être justement dire attention, méfions-nous peut-être des dérives, méfions-nous de ce qui pourrait arriver de la société,
Qu'est-ce qui pourrait advenir de notre
de ce qui
société à
pourrait
nous?
advenir. Depuis quand même pas mal de temps, je crois, la dystopie est devenue aussi le royaume de la science-fiction et de la science. Car la science-fiction, finalement, c'est quelque part, c'est souvent de la philosophie. C'est-à-dire, on va prendre un concept, on va le pousser à
Jusqu'à
l'extrême, et on va explorer tout ce qui est possible de voir avec. Ça peut être la perception avec Philip K. Dick, ça peut être l'immortalité avec Philip Joseph Farmer. Bon, vraiment, il y a des tas d'exemples possibles. La dystopie, donc, est liée à l'évolution de la technologie. Plein de raisons, mais d'abord parce que la technologie change profondément la façon dont les gens vivent en société. L'exemple le plus simple, c'est que il y a eu une espèce d'accélération de l'histoire au cours des siècles précédents. On ne peut pas faire une photo, mais en préhistoire, il se passait rien durant 100 000 ans. Et là, voilà, ça se passe très vite. Je sais juste, par exemple, que entre l'aube de l'humanité et 2003, on a produit autant d'informations qu'on en produit en 2 jours aujourd'hui. J'ai lu ça quelque
Ah
part.
oui.
Oui. Donc, l'histoire s'accélère et elle s'accélère pas à cause de la démographie, mais elle s'accélère à cause de la technologie, de la technique. Et cette technique, un impact donc sur la société. L'exemple typique ces derniers siècles, c'est la révolution agricole, puis industrielle, en Angleterre, Pays-Bas, etc., qui a engendré des gains de productivité et qui a quelque part aussi exclu, qui a appauvri finalement les parties de la population, tout en enrichissant la société dans son ensemble. Je vais pas faire un discours anticapitaliste ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le thème, mais la moindre révolution technologique est avant tout destructrice avant de créer de la valeur. En améliorant la productivité, par exemple, elle rend inutile le travail de quelqu'un, et généralement dans les sociétés où nous vivons, ça veut dire que cette personne va être mise au chômage. Enfin, voilà.
Le tracteur a détruit le soc de charrue, finalement.
Oui, il y a de ça, effectivement. Et effectivement, le fabricant de charrues a perdu son boulot. Enfin, plutôt, les 10 fabricants de charrues ont perdu leur boulot. Il n'est plus resté que le fabricant de tracteurs. Enfin, bref. Donc, là, on n'en est pas encore à la dystopie. On n'en est pas encore du tout au jeu de rôle, mais je vais continuer un petit peu à parler. Mon point de vue, c'est que les dystopies, ce sont les contraires des utopies, et que sont technologiques, désormais. Et ça date de plusieurs grandes œuvres. Et une que j'ai retenue en particulier, c'est Hero One. En 1872, ça a été écrit par un certain Samuel Butler. Pour retrouver ça, en fait, j'ai dû retrouver un mémoire d'histoire que j'avais écrit il y a une dizaine d'années.
Oh.
Et je m'étais intéressé à une controverse à l'époque publiée dans le magazine Wired par Bill Joy, c'était un des fondateurs de Sun Microsystems.
Ouais.
Et en fait, il essayait d'avertir le public contre les dangers de la génétique, de la robotique et de la nanotechnologie.
Ouais.
Des nanotechnologies. Mm-hmm. Et Samuel Butler, dès 1872 dans Air One, qui est l'anagramme de nowhere, nulle part, ce qui renvoie vraiment à l'idée d'utopie. Puisque c'est le sens du mot grec. S'interrogeait sur les en fait Samuel Butler s'interrogeait sur les problèmes liés à la technologie. Et cette référence a été reprise dans Dune, par exemple, puisque il y a le djihad butlerien qui a consacré la destruction des machines pensantes dans l'histoire de Dune.
Ah d'accord, ouais. Je savais pas.
C'est une référence qui vraiment traverse l'histoire de la science-fiction depuis longtemps. Mm-hmm. Donc voilà. La dystopie, là je vais vous parler de deux jeux de rôle qui sont pas forcément à remarquer pour leur date, mais avant tout pour le fait que la technologie a eu un impact foncièrement négatif sur l'humanité.
Sur la société humaine.
Alors, je vais commencer par, c'est pas un jeu, c'est un gros bouquin qui s'appelle Ex Machina.
Oui.
Sous-titré Tristat Cyberpunk Genre. En fait, ça fait partie d'une gamme qui n'a pas connu énormément d'exemplaires, je crois, qui a été édité par Guardians of Orders il y a quelques années, boîte qui n'existe plus.
Et qui a coulé il y a quelques temps déjà.
Oui. C'était une boîte qui sortait des gros bouquins, qui explorait un genre en particulier. Et donc celui-là, c'était le genre cyberpunk. Et plusieurs auteurs, en fait, utilisaient comme base le système de règles Tristat.
Oui.
Système simple et tout à fait recommandable, voilà. Sa qualité, c'est sa simplicité avant tout. Mm-hmm. Et donc il y a plusieurs backgrounds, plusieurs univers proposés, plusieurs univers de jeux proposés en fait dans le bouquin. Il y en a quatre.
D'accord.
Il y en a un qui est pas vraiment dystopique à mon sens. C'est comment ça s'appelle, Heaven Over the Mountain, quelque chose comme ça. Heaven Over Mountain. C'est donc ça, je vais pas en parler. Mais je vais parler brièvement des trois autres. Avant tout, il faut savoir que c'est du cyberpunk, donc c'est pas forcément une dystopie, parce que pour moi, donc le cyberpunk, ça se passe dans un futur relativement proche.
Oui.
Le genre cyberpunk, c'est avant tout des punks. Enfin, il faut retourner à la racine du mot, mais c'est des rebelles qui se révoltent contre une société cybernétisée, c'est-à-dire où la relation entre l'homme et la machine a évolué jusqu'à un point jamais atteint avant, et qui entraîne des conséquences négatives. C'est-à-dire l'homme et la machine vivent ensemble, mais ça a un effet négatif sur l'homme. Et les joueurs vont être amenés à se rebeller contre ça. Donc pour moi, c'est le cyberpunk, paradoxalement, il y a encore un espoir, parce que une des caractéristiques de la dystopie, c'est que c'est une société parfaite, comme l'utopie, parfaite dans son imperfection, et donc qui est très stable.
D'accord.
C'est le début, pour moi, de dystopie. C'est des sociétés qui peuvent être amenées à s'éterniser, mais c'est pas encore sûr pour moi. J'ai retenu trois univers qui, je pense, sont très très intéressants à découvrir.
Oui.
Voilà. Donc, alors c'est en anglais, hein, mais c'est vraiment un plaisir à lire. Alors, le premier s'appelle Yoshi, et a été écrit par l'auteur de Nobilis.
Ah oui.
Oui.
Donc Rebecca Schenbergstrom.
Tout à fait. Ouais. Et dans ce background, en fait, d'abord c'est vraiment très intéressant, parce que toute la société est centrée autour des projets, en fait. Les gens travaillent en fonction des projets, ils n'ont pas un employeur, etc. Toute la société est structurée de manière différente.
Oui.
Et surtout, la connaissance est complètement marchandisée, dans le sens où, prenons les États-Unis, qui a un système éducatif particulièrement significatif à ce niveau-là, les étudiants s'endettent,
oui,
pour de très fortes sommes, passent leurs études, ils trouvent un bon boulot et ils remboursent leurs dettes au bout de quelques années. Et là, c'est un peu la même chose, dans le sens où les gens vont acheter la puce qui leur donne une formation de médecin et ils vont la rembourser au bout de plusieurs années. Donc quelque part ils font un pacte avec le diable cybernétique. Voilà, ils achètent de la connaissance et qui peut leur être retirée quelque part. Enfin,
d'accord.
Voilà. Bon, je dis ça en fait, j'ai pas relu, je l'ai lu il y a très longtemps, mais donc c'est beaucoup de la mémoire ce que je vous dis, mais c'est quelque chose qui est tellement en phase avec ce qu'on voit de plus en plus ces dernières années.
Oui.
Que ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Ça vaudra encore le coup d'y jeter un œil dans 5 ou 10 ans pour voir les prédictions, parce que c'est vraiment un genre, le cyberpunk, où tout évolue très vite,
oui,
forcément.
Oui, oui.
Et on ne peut pas regarder de la même façon les films.
Ouais. Et d'ailleurs, par exemple, dans Polaris, l'auteur du jeu a mis à jour un certain nombre de technologies qui se sont trouvées modifiées par des découvertes récentes, en fait.
Oui, et puis même par exemple, ce qui a relancé la science-fiction dans le monde fin des années 70, Star Wars.
Oui.
On rigole doucement quand on regarde voilà les hautes grandes technologies.
Disons la technologie, enfin
les ordinateurs ne semblent pas forcément
la technologie liée à la SF. Pour moi, ce serait plus 2001, l'Odyssée de l'espace.
Oui, ou Star Trek qui tout de suite est allé vers une technologie extrêmement avancée.
Mais Star Trek qui pour le coup est une utopie.
Oui, encore une fois, c'est jamais entièrement parfait, mais effectivement Star Trek il touche en tout cas, il est optimiste. Mais là où l'utopie est optimiste, la dystopie ne l'est pas. Alors, donc, dans Yoshi ou Ayoshi, eh ben, voilà. En gros, vous allez acheter vos connaissances et vous allez devoir en payer le prix à un moment ou à un autre.
Oui.
Et comme dans tous les jeux cyberpunk, il va falloir à un moment que vous décidiez de quitter le système pour le combattre.
D'accord.
Avec les outils que vous avez. Ensuite, je vais parler d'un autre univers qui s'appelle Daedalus. Et là, l'univers est, comment dire, vous êtes un citoyen heureux, tout à fait intégré et tout.
Oui.
Sauf que vous portez cette petite puce que je t'ai mentionnée au début.
Oui.
Et vous n'avez pas vraiment le choix d'ailleurs. C'est ça ou rien en fait. Ça vous ouvre les portes. Si vous n'avez pas de puce, vous pouvez y rentrer nulle part.
D'accord.
Vous pouvez travailler. Voilà, vous devez ramasser ce qu'il y a par terre pour manger, ce genre de choses. Et c'est une société où le contrôle de l'individu a atteint un stade inégalé. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très très intéressant, cette exploration du potentiel de ces fameuses puces qu'on peut s'implanter dans le bras pour ouvrir la porte. Donc ça existe déjà de nos jours, mais jusqu'où ça peut aller.
Ce genre de choses est traité dans un roman récent qui est vraiment très très bien, que je recommande vivement, c'est Zen City.
Zen City,
oui.
D'accord.
Où,
quel auteur
son nom m'échappe. Il faut aller voir sur le Cafard Cosmique, il me semble que c'est dit. Et en fait, ce sont des gens qui ont des puces RFID sous la peau et qui leur permettent de faire leurs courses, d'ouvrir la porte de chez eux, de programmer leur magnétoscope, voilà.
Oui, incidemment, en fait, on se dirige vers une société où on portera tous cette puce. Simplement, elle sera dans notre, dans l'objet qui est qui personnalise le plus notre l'objet que nous avons toujours sur nous, c'est-à-dire le téléphone portable, hein, puisque actuellement.
Oui. Tout à fait.
Le Nexus de Google et la prochaine génération de téléphones certainement auront ces fameuses puces NFL, Near Field Communication, qui sont c'est la même technologie qu'on utilise déjà avec nos passes de transport en commun, genre de choses. Si on n'a pas besoin de toucher
oui. C'est des puces RFID pour le coup là.
D'accord, ok. Et voilà, donc on va y arriver très vite. Simplement, il faudra faire attention, car comme nous le savons maintenant récemment, donc ce podcast est enregistré en avril et en ce moment dans le petit univers d'internet il y a un débat sur le traçage des processeurs d'iPhone et Android.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Voilà, qui sont donc Ayoshi et Daedalus, c'est deux backgrounds qui sont très le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, dans le sens où c'est pas un monde qui vous opprime officiellement.
Oui. Voilà.
Alors que le troisième background que je vais vous présenter rapproche plus de 1984, et là il y a moins photos, c'est-à-dire c'est plus stalinien quelque part, c'est plus on vous opprime, oui, mais voilà, c'est vous menez votre vie de drone et vous faites comme on vous dit. C'est Underworld. En fait, Underworld, c'était plus sur l'oppression capitaliste en réalité que sur la technologie.
Oui.
C'est un monde où les États-Unis sont entrés dans un délire à un moment. Enfin bref, en gros, ils c'est un monde où finalement la Chine n'a pas eu cette croissance extraordinaire qui leur permet maintenant de
concurrencer
en tout cas le l'hyperpuissance américaine.
Oui.
Il y a plusieurs zones qui se font un peu penser par certains égards à 1997. Non, c'est New York 1997. Non, c'est peut-être pas encore ça parce que c'est pas vraiment des zones où il y a des loubars dans la rue, mais en revanche, c'est bien des zones prison. C'est-à-dire qu'il y a des murs autour de gigantesques zones, par exemple, toute une région de l'Indonésie, je crois, c'est la région qui est décrite.
Oui.
Où il y a des millions de gens qui sont dedans, qui travaillent, en fait. C'est des camps de travail. Voilà.
D'accord.
Quand on travaille avec des murs et
des goulags
avec...
en fait.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est des corporations américaines, des corporations américaines qui dirigent ces centres et qui exploitent la main d'œuvre sans aucun scrupule, sans aucune obligation. Et voilà. Et donc forcément, on va jouer des personnages qui sont dans ces centres et qui vont se révolter. C'est toujours le thème hein, des jeux cyberpunk, que ce soit Shadowrun, Shadowrun, on fait partie du système aussi.
Oui. Souvent, on en joue en fait.
Souvent le système essaye de vous avoir et vous êtes obligé de flinguer votre Johnson au dernier moment. Mm. Le cyberpunk, vous êtes sur la limite, je sais plus quel est le terme, mais vous êtes sur la corde raide.
Oui.
Voilà. Mm-hmm. Et puis donc Ex Machina, c'est des situations où la société essaye de tout bloquer et vous allez être l'agent perturbateur, que ce soit pour essayer de se révolter contre le système de puces, contre les corporations américaines d'Underworld ou contre le système de connaissances qu'on vous insuffle dans le cerveau, mais avec des choses que vous n'avez pas forcément envie de recevoir avec en même temps.
D'accord.
Dans Ayoshi. Enfin, voilà. Donc là, je vous ai parlé d'Ex Machina, un recueil de quatre univers et un jeu tout en un, sorti en 2004. Il y a 350 pages. Les illustrations ne sont pas extraordinaires. Je vais être honnête, enfin, c'est pas mon genre, mais en même temps, c'est sont pas horribles non plus, mais voilà. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est les textes qui sont très très intéressants. Je vous conseille en particulier Ayoshi, donc de Rebecca Borchstrom, qui est quasiment visionnaire à certains points de vue, je trouve.
Oui.
Voilà. Donc je pouvais difficilement parler de dystopie, je trouve, sans évoquer Ex Machina.
Mm-hmm.
Je vais maintenant parler d'un jeu plus ancien qui est paru en 1997 et qui s'appelle Zero. Alors, avant tout, je vais parler de la démarche. Comment le jeu est né. Il n'est pas parti d'un concept, il n'est pas parti d'un univers, mais il est parti des dessins, en fait, de Steve Stone.
Oui.
Qui ont donné l'idée, ensuite d'un univers. Le jeu est parti des dessins qui évoquent un petit peu, je sais pas ce que tu en penses, mais, le dessinateur d'Alien, là.
Giger,
merci. Et qui évoque un petit peu aussi, pourquoi pas, les Borg dans Star Trek.
D'accord.
Voilà, un mélange d'homme et de machine.
Donc, oui.
Un thème très cyberpunk, encore une fois. Et avec un petit côté insectoïde. Voilà. Donc, à partir de là, entre parenthèses, je trouve que les dessins ont un peu vieilli. C'est pas.
Oui.
Ils ont pas forcément le même impact qu'ils pouvaient avoir, effectivement, à l'époque, dans les années 90. Mmh. Mais c'est aussi parce que peut-être les techniques utilisées sont plus. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail. C'est agréable à regarder, mais là, ce dont je vais vous parler finalement, c'est du background qui a été créé pour fournir un cadre à ces dessins.
Mm-hmm.
La technologie en quelque sorte qui fait tout dérailler, si on peut appeler ça une technologie, c'est la télépathie.
La télépathie.
Oui. En fait, depuis un nombre incalculable d'années, de générations, etc., l'humanité s'est réfugiée dans de grands refuges souterrains, je crois, et vit en harmonie autour de la reine Zéro.
D'accord.
Dans quelque chose qui s'appelle l'équanimité. Tous les esprits sont connectés et tout le monde travaille ensemble, tout le monde est heureux, personne ne pose de questions. Voilà. Et en fait, c'est typiquement, c'est une colonie insectoïde humaine.
D'accord.
Où les gens ne se conçoivent pas en tant qu'individus, du tout. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une dystopie dans le sens où, voilà, on a complètement, enfin, c'est une société parfaite quelque part.
Oui.
Il, voilà, il y a des castes, tout le monde a un numéro. Il y a pas de pensée individuelle. C'est
un esprit de ruche en fait.
Tout à fait. Enfin, c'est l'esprit de la reine zéro qui domine tout ça, mais. Oui, et en fait, ça me fait penser aux Borg, encore une fois, hein, qui sont aussi dominés par une reine dans Star Trek, et qui n'ont pas d'individualité.
Oui.
Alors, comme dans les jeux cyberpunk cités, les personnages vont devenir des éléments perturbateurs parce que, à leur corps défendant, ils sont, enfin, leur esprit se dissocie, ils perdent le contact avec la ruche. Et à partir du moment où ils perdent ce contact, ils deviennent automatiquement des ennemis à abattre.
D'accord.
Et donc, c'est comme des fourmis qui découvriraient qu'elles sont des individus et qui sont pourchassés par le reste
Trouvent exclus à leur corps défendant en plus. Parce qu'ils...
Oui, tout à fait. Qui découvrent qu'elles sont dans le noir, qu'elles ont faim, froid, qu'elles ont les membres douloureux à force de travailler. Et qui vivaient dans une espèce de brume sans se rendre compte que voilà de leur état un peu comme drogués
dans un état cotonneux
et là voilà réalise que
ça fait penser à Matrix aussi quelque part
un petit peu sauf qu'il n'y a pas cette idée de d'un monde virtuel c'est juste voilà
mais c'est aussi une question de perception
c'est la découverte de l'individualité en fait. En fait, moi, ça me fait plutôt penser à Vampire.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que dans Vampire. Oui, parce que dans Vampire, il y a une quête de l'humain.
Oui.
Alors que dans les jeux cyberpunk, quelque part, il y a peut-être une quête de la machine. On va se transformer, on va prendre la meilleure puce, le meilleur membre cybernétique ou quoi que ce soit.
Oui.
Dans Vampire, on va chercher à redevenir humain. On peut faire ça. En tout cas, on peut essayer on a un monstre et on va vers l'humanité.
Uh-huh.
Pas vers la monstruosité. Dans Vampire, on perd tout de suite si on va vers la monstruosité, puisque du coup, on perd le contrôle de sa bête intérieure.
Ouais.
On devient une espèce de monstre
assoiffé de sang.
Voilà, assoiffé de sang. Et là, c'est un peu le même principe. On découvre l'individualité. C'est quelque chose d'assez. Émouvant, c'est un peu comme effectivement, alors encore une fois, je me réfère à ça parce que ça m'y fait penser les épisodes avec numéro 9, si je me souviens bien, dans Star Trek Voyager.
Oui, c'est...
D'accord. en fait, c'est une Borg qui a été capturée, je ne sais plus, bref, qui se retrouve à voyager avec les humains, qui a perdu le contact
La ruche.
Avec la ruche Borg et. Qui petit à petit développe sa propre personnalité.
D'accord.
Et c'est qui apprend des choses toutes simples, voilà, et alors qu'instinctivement il y a l'habitude de ne pas réfléchir pour soi, mais pour la communauté, qui doit apprendre à avoir des choix, des préférences. Voilà, c'est assez émouvant. Donc c'est avant tout, on va dire un jeu qui commence par de l'action parce que on est séparé psychiquement de cette collectivité télépathique autour de zéro. Tout de suite, celle-ci se retourne contre vous. Du coup, on va dire ça commence par une course poursuite. Et ensuite, on peut imaginer des tas de choses. Le bouquin n'est pas très très long et perd beaucoup de temps, je trouve, à parler de pouvoir psychique, etc. Alors que c'est des gadgets, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Il est pas très gros, donc 80 pages. Enfin, moi j'étais un peu sur ma faim au niveau du background en fait. J'aurais préféré plus de background et moins de pouvoir psy ou moins de.
D'accord, c'est un peu trop centré sur les règles.
Non, non plus.
Mais le livre est pas très gros non plus.
Oui, le livre pas très gros. Les règles. Enfin, des goûts et des couleurs, mais j'aurais préféré un truc d'un peu plus compact.
Oui.
Donc, en tant que jeu, j'irai pas jusqu'à le conseiller, mais je trouve que bon.
Qu'il développe des idées intéressantes.
Il développe des idées très intéressantes, que ça se lit avec plaisir au moins une fois. Je trouve que c'est dommage que le point de départ du jeu, qui est les graphismes de Steve Stone, en fait est mal vieilli. Je pense que c'est parce que il a dû utiliser des techniques informatiques qui ont mal vieilli.
Ouais, j'ai l'impression aussi. Ouais.
Ça c'est vraiment dommage. Sinon le thème, je trouve que c'est vraiment très original de partir là-dessus. Voilà.
Ok.
Donc ça c'était zéro. Je vais parler d'un dernier jeu de rôle dans un univers dystopique, en rappelant encore une fois que c'est juste ma petite sélection rapide et que vraiment il y en a des tas d'autres si on cherche bien.
Uh-huh.
Je rentre pas encore une fois dans le détail, surtout pas de cette gamme qui est très très grande, avec beaucoup de suppléments, c'est celle de Paranoia.
Ah, Paranoia.
Paranoia.
Un grand classique.
Tout à fait. Alors Paranoia, c'est... vite fait, je vous raconte. L'histoire, c'est en raison de la psychose liée à la guerre froide, l'humanité américaine, les Américains se réfugient dans des grands complexes souterrains pour résister à la guerre nucléaire.
Oui.
Voilà. Et des ordinateurs sont chargés de veiller à la maintenance de ces gigantesques complexes.
Oui.
Et petit problème, en gros, on est quelques siècles plus tard et les ordinateurs ont pris le contrôle, on va dire. L'extérieur des complexes est inconnu des gens, c'est un univers hostile. on suppose que c'est vraiment horrible. Et les gens sont complètement lobotomisés. Il n'y a pas de sexualité, ils sont clonés.
Mm-hmm.
Donc tout le monde a 6 clones normalement et la société est divisée en castes. La caste infrarouge, la pire des castes s'habille en noir et ils ne peuvent aller que dans les zones en noir.
Mm-hmm.
Donc ils vivent toute leur vie dans des pièces noires, à manipuler des objets noirs, etc. Au-dessus, il y a l'accréditation rouge.
Oui.
Donc eux, ils ont le droit de s'habiller en rouge, mm-hmm, ou en rouge et noir. Enfin, voilà,
oui,
donc,
voilà.
Ils ont aussi accès aux couleurs inférieures, etc. Donc à chaque fois, on a un peu plus de couleurs jusqu'à
l'ultraviolet.
Jusqu'à l'ultraviolet, où là, ils peuvent s'habiller comme vous et moi. Et ça, voilà, c'est eux les grands programmeurs qui aident l'ordinateur. Alors l'ordinateur,
c'est notre ami.
C'est notre ami. D'abord, il faut que vous sachiez que l'ordinateur est votre ami et veuillez vous rendre au centre d'extermination le plus proche. La célébration est obligatoire. Enfin, il y a plein de mantras comiques absolument hilarants,
oui,
qu'on peut lire, les fameux écrans de l'ordinateur.
Oui.
C'est un ordinateur avec une espèce d'humour noir qui...
D'humour involontaire, en fait.
Ouais, qui occupe la vie. C'est complètement totalitaire. Les gens passent leur vie en fait dans un univers complètement bureaucratique.
Oui, à l'extrême.
Mais, imaginez la préfecture, mais en pire, mais vraiment en pire.
Le service des cartes grises étendu à toute la étendu au monde entier.
Voilà, vous allez les voir et puis ils vous reprochent de pas avoir fait assez de photocopies ou vous demandent des photocopies d'un document que vous n'êtes pas censé apporter ou mais vous avez fait trop de photocopies mais ça va pas. Et ça fait penser aussi à l'univers de l'entreprise, à Dilbert. Enfin,
oui.
Parce que dans Dilbert, on voit aussi des scènes ubuesques.
Oui.
C'est kafkaïen, c'est, Orwell, Kafka, c'est vraiment des références à garder en tête. Mais c'est un univers humoristique en tout. C'est vraiment un jeu de rôle parodique.
Ouais.
C'est
une dystopie parodique en fait.
Oui. Alors. La vie humaine n'a pas de prix. D'ailleurs, on parle pas vraiment d'humain en ce qui concerne les gens. Les joueurs interprètent des clarificateurs. Ils sont là pour clarifier les situations. Clarificateur, c'est vraiment le genre de c'est du jargon pour comment dire politiquement correct. C'est comme on dit.
C'est de la protection, de la novlangue.
Surveillance. Voilà, c'est de la novlangue. En fait, c'est des hommes de main. Qui sont chargés de tuer les ennemis de l'ordinateur. Les ennemis étant les mutants.
Les communistes.
Les communistes, bien sûr, avant tout les communistes.
Oui, voilà.
Parce que c'est les communistes qui ont commencé. Les mutants, les membres de sociétés secrètes dont les plus redoutés sont les communistes.
Oui.
Et puis, je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et le problème, c'est qu'en fait, tous les personnages du groupe sont à la fois des mutants
et appartiennent, des sociétés
et appartiennent
secrètes.
À une société secrète. Donc, bien sûr, ils ne le révèlent pas aux autres, mais tout le monde est un traître. Et le but de tout le monde est de démasquer les traîtres. Donc, ça, forcément, avec des prémices comme ça, voilà, c'est forcé que ça va finir en massacre. Mais le but, c'est pas de se tirer dessus comme ça, sans prétexte, parce que si vous le faites, vous allez être exterminé pour avoir endommagé la propriété de l'ordinateur, etc. En plus, si vous tuez un de vos petits camarades, n'oubliez pas qu'il a 5 autres clones qui peuvent le remplacer au pied levé et donc peuvent éventuellement le venger quelque part. Donc, le but, en fait, c'est d'utiliser les règles du système en utilisant la logique spécieuse, voilà, en mentant, en manipulant pour parvenir à vos fins. Donc, c'est très très drôle. Il y a des tas de, enfin, dans la gamme, on peut trouver des tas de faux formulaires. Au retour de chaque mission, il y a un débriefing et on peut dire ce qu'on veut dans le débriefing. Donc, il faut argumenter et tout, mais ça peut mener à l'exécution des autres personnages, enfin, ce genre de choses, quoi.
Et chacun fait son rapport dans lequel il va essayer plus ou moins de dénoncer tous les autres.
Voilà, donc ça c'est un univers en fait où c'est l'informatique qui a mal tourné, c'est un ordinateur qui obéit à des directives étonnantes et qui en quelque sorte a privé quelque part et opprime finalement toute une population, mais qui n'est plus vraiment humaine, hein, qui est complètement c'est un univers voilà, plus de sexualité, plus d'ambition, plus rien. Les gens obéissent. Alors, ils sont complètement fanatisés, souriants. c'est la Corée du Nord Empire. Ils ont des médias quand même, mais des médias qui sont avant tout des.
Enfin, voilà, des messages
comme,
de l'ordinateur.
C'est comme TF1, mais en pire.
C'est des messages de l'ordinateur.
Oui, non, mais il y a des chanteuses, ce genre de choses, des acteurs, mais c'est que de la propagande, en fait.
Oui.
C'est comme l'URSS dans sa grande période.
Oui.
Petite parenthèse, tout de suite. Si vous allez sur Twitter, vous pouvez consulter les messages de l'ordinateur en cherchant friend_computer.
Oh.
Et oui, régulièrement le type qui est derrière tout ça exhorte ses followers sur Twitter à sourire car l'ordinateur est leur ami. Ça, c'est assez amusant. Et puis voilà. Alors, donc il y a eu beaucoup d'aventures dans cette gamme.
Oui.
C'est avant tout une gamme à aventures. Hein. C'est pas une gamme à on va pas explorer le monde, etc. C'est
un jeu à mission en quelque sorte.
Exactement, c'est un jeu à mission avec des situations très burlesques, avec une espèce de tension entre le fait qu'il faut réussir la mission,
oui.
De toute façon, l'échec n'est pas une option.
Oui, oui.
On sert l'ordinateur. Et par ailleurs, on a des objectifs secrets. On est membre de sociétés secrètes, on a des petits avantages qui sont les mutations, mais il faut les cacher. Et on a des ennemis, parce que le début de chaque mission, c'est aussi l'occasion pour chacun d'essayer de démasquer la personne au sein du groupe qu'ils doivent éliminer, peut-être pour leur société secrète, ce genre de choses. Donc, ça doit être. J'ai jamais fait jouer. Je crois que j'y ai joué une fois il y a très très longtemps.
Moi, je l'ai maîtrisé.
Mais voilà. Alors dis-moi, ça doit être coton quand même de maîtriser ça justement, parce qu'il faut garder le troupeau ensemble.
Faut
pas que ça dégénère trop vite, sinon c'est plus drôle, je pense.
Mais en même temps, j'avais des joueurs. C'était des joueurs débutants et en fait, ils savaient pas trop comment.
Ils osaient pas se faire des coups de pute.
Voilà, c'était trop mignon. Donc j'ai dû les pousser en fait à se trahir et tout ça.
D'accord. Ça a eu une nouvelle édition il y a quelques années.
La première ayant été publiée par Descartes.
Ouais, la première a été traduite par Descartes en français. Donc c'était en version originale en 1984. Paranoia XP, la nouvelle édition, ça doit dater de 2005 ou 2004. Ça a été le design de la nouvelle édition a été réalisé par Alan Vernin, qui est un des auteurs originaux de Paranoia.
Oui.
Un autre auteur dont je me souviens en particulier, c'était Greg Kostikian.
Oui. Mmh.
Et Alan Vernin, donc à qui j'ai posé la question, je lui ai demandé en fait. En 2011, franchement, les communistes et une guerre thermonucléaire globale, c'est plus vraiment la menace qui.
C'est plus tellement au goût du jour.
Voilà. Pardon, en 2011, comment notre ami l'ordinateur pourrait-il nous convaincre de rejoindre sa vie souterraine de nos jours? Et donc, il me répond que, entre la vague de sécheresse l'année dernière en Europe, la disparition de la couche d'ozone, des terroristes qui peuvent peut-être faire exploser une bombe atomique, ou bien le vieillissement des 59 centrales nucléaires françaises, ou encore, il y a toujours des astéroïdes dans le ciel, et chaque année, il y a des douzaines d'entre eux qui passent à proximité de la Terre. Bah, entre toutes ces choses, il n'est jamais trop tard pour ressentir une peur et une anxiété sans fondement précis.
Oui.
Faites confiance à l'ordinateur est votre ami. Et donc, je trouve que vraiment ce qu'il met en avant, c'est que c'est la peur qui est l'élément déclenchant.
Qui est l'élément moteur de ce type de.
Voilà. C'est, les gens ont peur, ils sont en pleine psychose, et c'est une psychose qui a existé, hein, on le sait notamment aux États-Unis où les gens se construisaient des bunkers et puis avaient peur des communistes. Exemple typique de Docteur Folamour avec le délire du colonel ou du général, je sais pas quoi, qui parle des femmes qui lui volent ses fluides corporels, des communistes qui mettent du fluor dans l'eau, etc. Voilà, il y a les théories de la conspiration, etc. Une espèce de peur latente mène logiquement à abandonner ce qui fait de nous des hommes libres,
oui.
À se réfugier dans l'empreinte maternelle de l'ordinateur.
Oui.
Et c'est intéressant parce que de nos jours, quand même, on dit souvent que notre société est gouvernée par la peur. Vous avez peur de perdre votre emploi. Vous avez peur de
les politiques sécuritaires.
Les politiciens déjoués là-dessus, hein, pas de généralité ou de quoi que ce soit, mais ça reste quand même quelque chose qui est présent. Et il y a eu un sondage récemment qui disait que les Français étaient le peuple le plus pessimiste de la Terre. Bon, ça veut pas dire qu'on est sur le chemin de creuser un trou et de mettre notre PC dedans et puis d'écouter ce qu'il a à nous dire. mais c'est intéressant parce que plus c'est pas le vrai problème des gens dans Paranoia, c'est pas l'ordinateur, c'est le fait qu'ils ont abdiqué ils ont abdiqué face à l'ordinateur parce qu'ils avaient peur, ils se sont réfugiés en fait. Et ensuite ça crée les conditions qui ont permis le.
Oui, ils ont abandonné tout libre arbitre contre une vraie fausse sécurité.
Ouais. Alors, ça s'est passé dans le passé, et là, pour le coup, c'est pas comme les univers cyberpunk que j'ai décrit, c'est une société très stable.
Oui.
Le complexe Alpha, c'est un écosystème fermé. L'ordinateur contrôle tout depuis toujours. Il tourne en boucle avec les mêmes histoires. Il n'a pas besoin de se renouveler. Et les gens naissent dans des cuves, travaillent jusqu'à la fin de leur vie et sont très contents. De temps en temps, ils prennent des pilules pour être heureux s'il le faut. Et ensuite, ça reste un plaisir à lire parce que c'est parodique. Et donc, on peut prendre n'importe quoi dans l'actualité. J'imagine tout à fait de la télé-réalité avec Paranoia. Ça sert tout de suite. Ça, c'est du scénario Paranoia.
Mm-hmm.
On peut prendre n'importe quelle situation de l'actualité et lui donner un ton parodique et le mettre dans le complexe Alpha, ça marchera. On peut mettre des cow-boys dans le complexe Alpha, ça marche. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. Ils ont fait vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Ils ne se sont pas gênés. Il y a des scénarios que je n'ai pas tout lu, loin de là, mais j'en ai lu quelques-uns. C'est du délire. Faut pas s'attendre à autre chose. C'est pas non plus un jeu exemple de défaut, hein, forcément.
D'ailleurs, parfois c'est un peu lourd. Dans ce jeu, finalement, c'est le seul par rapport à tous ceux que tu as présentés. dans lequel les personnages sont complètement
ils sont pas en révolte
voilà,
contre le
système. Non, ils sont complètement inclus dans leur société et bien dans celle-ci.
Ils ont des petites sociétés secrètes, mais en fait celle-ci c'est un moyen de contrôle de l'ordinateur.
Ouais.
L'ordinateur n'est pas fondamentalement opposé. Ça c'est comme il offre un jardin secret,
oui.
Mais bien contrôlé, à l'exception des communistes, parce que les communistes c'est vraiment trop, vraiment, trop mal. Mais parce que les communistes, ils se posent en concurrent, ils veulent vraiment détruire le système.
Oui, oui.
Alors que les sociétés secrètes, c'est genre les adeptes du libre-échange ou le club Sierra. bon, faute de copyright, il y a pas ça, mais sinon, devrait y avoir une société secrète basée autour de Disney,
oui. Enfin,
genre de choses, quoi. C'est un petit peu comme une société où les gens n'auraient aucun libre arbitre, mais ils pourraient se déclarer, ah ben moi je suis de telle ethnie, communauté, culture, mais moi je suis punk. Moi, je suis musique classique et tout, mais ils n'ont pas le droit de le dire.
Ouais.
Mais enfin, c'est du même registre. Ils ne menacent pas du tout l'ordre établi de l'ordinateur. C'est un moyen de contrôle.
Parfait.
C'est vrai que dans Zero et dans les jeux cyberpunk d'Ex Machina, il y a la possibilité de se révolter. Mais bon.
D'accord.
Dans Paranoia, c'est pas le but. Ça explique aussi que ce soit parodique, je pense.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais conclure en fait
Comme conclusion, si vous le pouvez, lisez Paranoia parce que il y a des moments où c'est des règles, etc. Mais que ce soit les scénarios ou les illustrations ça regorge d'humour. Les prêts tirés, c'est marrant de découvrir que tous les personnages sont censés s'entretuer. Il y a des situations délirantes, il y a des chansons. je conclue pour dire que Paranoia c'est un des jeux fondateurs, je pense, du jeu de rôle. C'est un jeu très original,
ouais,
qui est aussi marqué par son époque.
Ouais, la guerre froide, ouais, c'est
et,
ça.
C'est ça, c'est la fin de la guerre froide de 1984.
Ouais.
Et qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Pourquoi pas qu'on y joue? En tout cas, rien que le lire, c'est vraiment un plaisir.
D'accord.
Voilà. Donc là, je conclue. Les dystopies, c'est fini. Ah, si, juste un dernier truc sur la peur. Parce que, mine de rien, quand on y réfléchit, on devait parler de Deadline ici.
Oui, ouais, tout à fait.
Et
oui.
Deadline, ça part aussi un petit peu de la peur des astéroïdes. Alan Varney m'en parlait. La peur d'une destruction de la Terre.
Oui.
Va pousser les gens à confier leur avenir, leur survie à une société qui s'en sente capable. Donc, une certaine abdication de nos futurs quand on cède à la peur.
Voilà.
Voilà. J'espère que j'ai pas fait trop philo parce que le but c'est quand même de parler de jeux drôles sympathiques. Ouais. S'il fallait en sélectionner qu'un seul, Paranoia XP c'est un petit peu c'est une reçue, c'est quand même d'un jeu plus ancien, donc très intéressant, un titre historique. Zero c'est bien d'en parler, mais très honnêtement c'est pas le jeu du siècle. Mais Ex Machina, vraiment une très bonne lecture. Les trois jeux sont en anglais. Paranoia vous pouvez le trouver encore en français, peut-être d'occasion. Puisque ça a été effectivement, comme tu l'as mentionné, traduit en français
par Descartes, oui.
Par René Descartes. Tout à fait. C'est en fait parce que quand les extraterrestres ont enlevé Agathe, ils ont aussi déposé René Descartes. Et celui-ci a traduit.
A traduit Paranoia. D'accord. Mais écoute, merci Cyril. Je pense que nous avons fait le tour de tout ce que nous avions à dire. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on vous dit à la prochaine fois. Allez, salut.
Salut.